Le psaume sous les étoiles, chapitre 8. Cependant, notre révolte gagnait tous les jours du terrain, et de nouvelles troupes accouraient pour la combattre. Après notre course en sylve gaudesque, nous avions rejoint Jean Cavalier dans les bois de Zé, dans le moment qu'il se préparait à passer l'Ardèche pour soulever le Vivarais. Nous nous mettions en campagne au commencement de février. Malheureusement, la pluie et la neige nous gênaient beaucoup. Au bout de peu de jours, nous étions comme ensorcelés dans la région située entre la Cèze et l'Ardèche, au milieu d'une population qui nous était presque toute hostile, nous refusait les vivres que nous devions prendre de force quand elle ne les cachait pas, et nous trahissait tant qu'elle le pouvait. La pluie, le froid, les privations nous firent grandement souffrir. Nous avions dû laisser Lucrèce, la Bivaroise, à notre hôpital des cavernes de Zé, où les blessés et les malades affluaient maintenant. Quant à Florette, elle supportait toujours souriante le froid, la fatigue et la faim. On la voyait sans cesse prodiguer les encouragements à nos compagnons qui, pour l'entendre, eussent fait volontiers des lieux. Après beaucoup de marches et de contre-marches, nous rencontrions enfin l'ennemi qui nous barrait le passage en avant de Vagnas et l'enfoncions complètement, lui tuant beaucoup de monde, dont 30 officiers, parmi lesquels M. de la Gorse. Nous perdions là, malheureusement, le brave Espérant Dieu. Il eût fallu à ce moment passer l'Ardèche sans retard, à Salavas. La route se trouvait libre. Mais nos hommes étaient exténués, et nous ne voulions pas non plus abandonner nos blessés, que nous ne pouvions ici confier aux paysans. Il fallait trouver dans les environs des bêtes et des bâts pour les emporter avec nous. Nous étions d'ailleurs fort impressionnés par la neige qui n'avait cessé de tomber depuis le matin, et il fut décidé qu'on reviendrait à Vagnas pour y passer la nuit. Au crépuscule, voici que des chants éclatent vers le tournant du chemin et que nous voyons arriver une troupe d'habitants de Vallon qui, au bruit de notre victoire, accouraient vers nous, nous embrassaient, nous pressaient d'entrer chez eux. Ils escortaient, montés sur une mule, un vigoureux vieillard de haute taille aux cheveux drus, à la barbe grise, et dès qu'ils parurent, des clameurs s'élevèrent. Des voix criaient « C'est Daniel de Leuze, c'est le vénérable Daniel, ministre élu de Dieu !» « Est-il possible, Daniel, le compagnon de Brousson ? Comment a-t-il pu venir jusqu'à nous ? On dit qu'il a passé le Rhône à la voulte, se donnant pour un marchand de soie de Lyon. Saisi d'émotion, je regardais le pasteur et retrouvais dans ses traits la ressemblance de Timothée et de Florette. La neige, maintenant, ne tombait plus. À la hâte, Cavalier s'était porté à la rencontre de Daniel, qu'il avait instruit dans la doctrine autrefois à Genève. Et, les yeux pleins de larmes, il ne se lassait point de lui baiser les mains. « Pasteur d'Israël, lui disait-il, Dieu soit béni qui vous envoie. Nos cœurs battent, car vous venez accomplir la promesse. Avec vous, ministre Daniel, nous braverons Satan et nous reconquérons la terre avec la liberté de conscience. Savez-vous nos combats, nos victoires ? Cavalier, on m'a tout dit, mais ta conscience à toi est-elle en repos ? » Sous l'œil du ministre, flambant comme une épée, Cavalier ne se troubla point. « Je ne suis, dit-il, qu'un pauvre pécheur. Et quel pécheur peut se dire en paix avec sa conscience ? Pourtant, ministre Daniel, je ne doute point que Dieu m'ait appelé à la délivrance de son peuple. » Mais tous les chefs se présentaient maintenant à Daniel. On l'entourait, et Florette, que j'avais fait prévenir au poste des blessés, accourut. « Voici votre nièce, dit Cavalier. Dieu l'a élue pour consoler son peuple et exalter au combat les enfants de Dieu. » Florette courut vers le ministre. « Oncle, dit-elle, je suis Florette. » Il la regarda gravement. « Que veux-tu et que fais-tu là, ma fille ? Pourquoi portes-tu ce vêtement d'homme ? Oncle, c'est moi, Florette Baduel, et je sers au désert parmi les enfants de Dieu. Laissez que je vous embrasse d'abord et me bénissez. » Elle s'était jetée dans les bras du ministre, dont la sévérité fondit alors comme un soleil tiède la neige de mars. « Est-ce bien toi, ma petite Florette, la cadette de Baduel, la fille de ma sœur Sibylle, que je te vois bien ? Regarde-moi. Oui, tes traits sur tout ton regard m'emplissent d'émotion, tant ils me rappellent la figure chérie de mon père qui souffre au rang des confesseurs de Christ. » « Ah, mon oncle !» s'écria Florette en sanglotant. « Vous savez qu'il fut pour moi plus qu'un père, et Idelette mieux qu'une mère. Je ne sais même où ils gémissent, hélas, et nous ne déposerons point les armes avant de les avoir délivrées. » Je vis que Florette parlait avec animation à son oncle, puis elle me fit signe de venir plus près. Daniel m'embrassa affectueusement, me parla de mon malheureux père qui fut son compagnon d'enfance, et il dit ensuite « Mes enfants, je suis bouleversé de vous voir courant le désert parmi le sang et la flamme, vivant l'un près de l'autre comme si vous étiez des époux, sans que vous soyez des époux. Florette veut que je vous bénisse et célèbre votre mariage. Je le ferai sans doute, car je crois lire dans vos yeux la pureté de vos cœurs. Cependant, il est nécessaire que je la voie mieux. Vous écouterez ce que je vais dire tout à l'heure à l'assemblée et ferez d'abord selon mes commandements. » Il était maintenant nuit noire. Cavalier pressait Daniel de venir prendre quelque nourriture. Les Vallonnais avaient apporté des vivres et nos frères se disposaient à se restaurer avec eux. Mais le ministre lui dit « Cavalier, je suis envoyé vers ton peuple pour lui parler. Il faut que je lui parle sans retard. » Aussitôt, le bruit se propagea que le pasteur Daniel Deleuze allait prêcher. Et de toutes parts, on accourut. Dans une vaste clairière aux abords du village, on eut bientôt dressé une table de pierre et, aux lueurs des torches, le pasteur Daniel y monta, environné d'un immense auditoire dont les derniers rangs se perdaient aux profondeurs de la forêt. Daniel entonna d'abord un psaume qui gronda aussitôt sur toutes les bouches. « Mon âme en Dieu tant seulement trouve son contentement. » Puis il parla. « Notre aide soit au nom de Dieu, dit-il, qui a fait le ciel et la terre. Amen. » Le consistoire des anciens, établi pour le temps de l'épreuve au pays de Genève, m'envoie vers vous pour vous dire la vérité. Oui, là-haut, dans notre refuge, le bruit de vos guerres est venu jusqu'à nous. Et que nous a-t-on dit? Ah, qui pourrait le croire? On nous a dit, mes frères, que vos chemins sont rouges de sang, que vous massacrez les hommes et les femmes. On nous a dit que vous brûlez les églises et les maisons de vos ennemis. Et que faites-vous donc des commandements de Dieu? Un silence de mort régnait sur l'assemblée, et chacun frémissait dans son cœur. « Et, continua Daniel, vous courez, nous dit-on, la nuit comme bêtes de proie, vous surprenez des gens qui dorment et les égorgez sans pitié, vous vous relâchez dans toutes sortes d'impuretés et de maux, et vous osez vous dire les enfants de Dieu ?» Parmi la multitude, quelques voix protestèrent, mais Daniel, le bras menaçant, cria « Taisez-vous, tueur que vous êtes, laissez-moi parler. Verra-t-on maintenant les brebis égarés reprendre leur pâtre? Et ce n'est pas assez que vous assassiniez, que vous piliez, que vous allumiez l'incendie, voilà que vous êtes établi prophète. Oui, on nous a dit que, pareil aux fanatiques d'Écosse, vous nourrissez parmi vous une bande d'imposteurs, de gens féroces, de femmes à moitié folles, qui font semblant de recevoir l'inspiration du Saint-Esprit, et vous les suivez, baillant à leurs sornettes comme des niais de nature. » Nous nous regardions stupéfaits, tant les paroles de Daniel nous piquaient au vif. Et vraiment, au reflet sanglant des torches de résine, la figure de ce noble et grand vieillard, nous accablant de reproches, avait quelque chose de fantastique qui nous épouvantait. « Et vous croyez, malheureux, que vous allez continuer ainsi, que Dieu peut le permettre et qu'il ne va pas vous accabler de sa colère ?» Il s'interrompit un instant, regarda à droite, à gauche, sembla fouiller dans les recoins de la multitude, puis il reprit. « Ah, l'abomination! Que vois-je? En croirais-je mes yeux? Quelles sont ces femmes qui courent après les hommes? Alors les fils abâtardis des purs ne sont plus que des débauchés? Est-il possible? Vraiment? J'ai la berlue, sans doute. Je ne puis croire ce que je vois. » Ici, par exemple, une grande rumeur s'éleva qui coupa la parole au ministre. Quelqu'un cria « Daniel Deleuze, avisez-vous, ne parlez pas à la légère. Vous n'avez pas le droit de ternir nos femmes qui sont au désert, les servantes de Dieu. Ah, on voit que vous venez de loin et que vous avez de la poix sur vos cils, mais regardez donc de près qu'aucun ne sort. Dieu me pardonne si je blasphème, car il faut bien quand la charrette est trop chargée que les rides elles pètent. Et que diable, venez-vous nous chanter pouille ? Est-ce qu'on vous a dit aussi, là-haut, tout ce que nous ont fait souffrir les monstres d'enfer? Est-ce que nous n'avons pas le droit de nous venger? Est-ce que le premier commandement de la Bible n'est pas de rendre œil pour œil, dent pour dent? C'est faux! Là, je t'arrête, interrompit fougueusement Daniel. Ah non, il n'est pas celui-là le premier commandement de Dieu, car s'il l'était, que serait venu faire sur terre? Je te le demande, esprit borné, Que serait venu faire notre divin sauveur quand il mourut, cloué entre deux brigands, pour épancher sur la race humaine la rosée souveraine du sang de rédemption? Ah, je le reconnais, on vous a cruellement persécuté, on vous a forcé d'aller à la messe, d'envoyer vos enfants à l'école de l'erreur, on a lâché dans le terroir des soldats ivres qui se précipitent sur vous comme des loups quand vous vous assemblez en secret pour prier Dieu. On vous a dérobé vos biens, on vous a chargé de chaînes et rompu vif sur les échafauds. Eh bien, notre Seigneur, n'a-t-il pas souffert plus que vous, ô gens de peu de foi? Lui, le Fils de Dieu, lui, l'agneau sans tache, est-ce qu'on ne l'a pas crucifié? Si l'on te frappe sur la joue droite, présente la gauche. Voilà la véritable loi du chrétien. Vous serez heureux, a dit le Christ, quand les hommes vous chargeront d'injures et vous persécuteront. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous persécutent, insensés que vous êtes. Avez-vous donc imaginé qu'en incendiant les églises, en égorgeant les prêtres, vous alliez du même coup détruire la superstition et l'idolâtrie? C'est de là sans doute que vous espérez votre délivrance et la restauration des temples? Aveugle, aveugle-né, ne savez-vous pas qu'il est interdit de faire le mal, que le mal engendre le mal et ne peut engendrer le bien? Avez-vous donc oublié la nouvelle alliance de notre Seigneur Jésus-Christ? Ici, l'on entendit des sanglots. Les femmes surtout dégonflaient leur cœur, gémissaient et gloussaient comme des tourterelles, sottement, hélas, et plus que de raison. « Allons, mes frères, je vois que vous pleurez, » ajoutait Daniel, « que mes paroles dans vos âmes soient le levain du salut. Rentrez dans vos demeures, chassez les illuminés et les femmes, oubliez les injures, pardonnez à vos bourreaux, rappelez-vous la parole de vos ministres, et quand le deuil de l'Église, il n'est plus à rougir quand on leur parlera des hommes de notre terre, des fils des purs croyants qui jadis la sanctifièrent. » Ainsi parla Daniel de Luz, et ce fut pour tous une grande stupeur. Le respect qu'il nous inspirait nous empêchait de lui dévider, comme on dit, notre écheveau, et ses paroles nous étouffaient. Nous étions pareils à des mulets rétifs qui ont reçu une correction et qui, tout frémissant, n'osent pourtant ruer. Dans l'ombre, on entendait à mi-voix dialoguer nos frères. « T'en vas-tu, toi ? Pour moi, je vais lier ma besace et je partirai à l'aube. » »« Oui, Daniel a raison. » Il vaut mieux rentrer au logis. Ce n'est pas une vie, allons, de toujours errer dans le désert. Près de moi, Florette restait muette, les yeux baissés, les narines frémissantes. On entraîna le ministre dans une salle où le repas était servi, mais il ne mangea guère et demanda presque aussitôt où il pourrait dormir. « C'est que, dit-il, je ne suis plus jeune comme vous, mes amis, et j'ai grand besoin de repos. » Nous l'avions accompagné, Florette et moi, dans une chambre bien chauffée qu'on avait préparée pour lui. « Vous m'avez entendu, mes enfants, » nous dit-il, quand nous le quittâmes. « Il faut suivre d'abord la loi de l'Évangile et ne point se révolter contre les puissances établies. »« Pourtant, mon oncle, » dit Florette, « si l'Esprit nous ordonne de combattre. » »« Ma petite fille, je ne pense pas que l'Esprit de Dieu véritable puisse donner un ordre tel. » »« Et moi, je suis sûr, cependant, qu'il me l'a donné, mon oncle. » Daniel la regarda, plein de tendresse et de pitié. « Va reposer, fillette. Demain, nous en reparlerons. » Et il nous embrassa de tout son cœur. Nous passâmes toute la nuit, qui fut glaciale, en proie au découragement, et ne dormîmes guère. Aussi fûmes-nous vite sur pied quand, tout à coup, à la prime aube, les sentinelles crièrent « Alerte ! Voici l'ennemi qui arrive de Barjac !» C'était, et nous l'avons vu depuis, le maréchal de Camp Julien, l'apostat des temps nouveaux, qui, prévenu par un traître, avait marché toute la nuit, amenant plus de 1000 hommes des meilleures troupes. La neige tombait de nouveau, à tourbillon. Nous nous rangions pourtant assez vite en bataille aux abords du village. Et voici qu'à notre vue, l'ennemi s'arrêtait, comme effrayé, et se postait à la lisière d'un bois qui s'étend au sud de Vagnas. Et nous pouvions croire qu'il n'y avait devant nous que les deux compagnies du régiment de Hainaut que nous apercevions. C'est pourquoi Jean Cavalier donna l'ordre d'attaquer aussitôt l'ennemi, et nous tombâmes ainsi dans l'embuscade que Julien nous avait tendue. Ayant enfoncé les deux compagnies de grenadiers, et pénétrant à leur suite dans le bois, nous nous vîmes en effet subitement attaqués à droite et à gauche par plusieurs détachements que nous n'avions pu voir. Dès le commencement de l'affaire, nous avions fait monter Daniel de Luz sur le cheval du pauvre Espérant-Dieu, le suppliant de se sauver avec les femmes. Il n'en avait rien voulu faire, et se trouvait maintenant au fort du combat, priant Dieu et chantant le psaume « Miséricorde à moi, pauvre affligé !» Bientôt, hélas, nous fûmes submergés par le flot de nos assaillants. Il en résulta une effrayante mêlée à coups de baïonnettes, de pertuisanes, de spontons, de faux, de bâtons, à coups de poing, à coups de dents. Ah, bataille maudite! Comment ai-je pu me tirer de là avec Florette, qui près de moi se défendait avec courage, faisait tourbillonner autour d'elle une petite hache et criait « Hardi, enfant, hardi, et faites ferme afin que Dieu se montre !» Ayant à rallier mes hommes, je l'avais confié à la garde de Méric, qui écartait d'elle à coups de crosse les grenadiers trop pressés de l'atteindre. Maintenant, dans la mêlée terrible, nous nous étions rejoints et luttions côte à côte. Le vénérable Daniel, tombé de cheval, chantait encore « quand un dragon, je l'ai vu, hélas, lui fendit la tête d'un coup de sabre. Bientôt la panique se mit dans nos rangs. Pour mieux courir, nos compagnons jetaient leurs armes, leurs besaces, hurlant comme au jour de la mort. Et sur ce plateau de Vanias, encore retentissant de notre victoire d'hier, les survivants s'éparpillèrent aux quatre vents, criant plein de terreur « Trahison, trahison, châtiment de Dieu, voici la boucherie du diable !» Entraînés dans la débâcle, nous avions gagné un petit bois où nous pensions être à l'abri de nos poursuivants. La neige nous aveuglait. Florette avait perdu sa cape et son chapeau, mais gardait en bandoulière sa carabine et tenait sa hache à la main. « N'es-tu pas blessé, mon enfant ?» lui dis-je. « Viens que je suis le sang qui te couvre. »« Hélas, » dit-elle, « je n'ai point de mal, mais la bataille est perdue. La malédiction de Daniel nous a porté malheur, et il est mort lui-même. Oh, Dieu, pardonne-lui d'avoir douté que ton esprit nous parle. » Et maintenant, qu'allons-nous faire? Notre armée est détruite, nos compagnons morts, nos chevaux enlevés, nos armes perdues. Et qu'est devenu cavalier? Ah, serre-moi, Jean, serre-moi bien fort dans tes bras, empêche-moi de pleurer. Mais tu saignes, ta joue est déchirée. J'avais en effet pu parer un maître coup de sabre destiné à ma tête, mais non point l'empêcher de m'érafler la joue. À quoi d'abord je n'avais point pris garde. Maintenant, je m'avisais que je perdais mon sang par une estafilade assez profonde. Florette s'empressait de me laver le visage avec de la neige, quand nous entendîmes à peu de distance des clameurs féroces. « Par ici » criait-on, « par ici, nous les tenons !» Sans quartier, resté à la lisière du bois pour en épier les abords, accourait aussitôt. « Voici l'ennemi !» dit-il. Et nous nous remettions à courir. Malheureusement, nos pas dans la neige laissaient des traces fraîches, en sorte que nous étions bientôt rejoints par quatre grenadiers qui tirèrent d'abord sur nous sans nous atteindre. Ils étaient à nos trousses et nous gagnaient de vitesse. « Sans quartier, » dis-je alors, « arrêtons-nous à la garde de Dieu et vendons cher nos vies. » Je prends mes pistolets et, me retournant, casse la tête à l'un des grenadiers qui allait me saisir. Quant à Méric, il expédie le sien d'un coup de baïonnette. Et comme je tirais mon second pistolet, qui fit d'ailleurs faux feu, les deux autres soldats, nous voyant résolus, s'enfuirent plus vite qu'ils n'étaient venus. Nous dépouillons rapidement les deux morts de leur poudre et de leurs balles et leur enlevons leurs manteaux. Puis nous reprenons notre course. Mais nous avions perdu la bonne direction. Croyant tourner le dos à l'ennemi, nous nous dirigeons au contraire vers lui. Et comme le bois s'éclaircissait, nous aperçûmes à quelque distance une construction flanquée de tours. « C'est le château de Montferré, » dit Méric, après avoir inspecté les environs. « Je le reconnais bien. J'ai chassé dans ce pays il y a quelques années. Attention, si nous pouvons arriver aux Débalaines, nous y trouverons une surcachette. » Nous glissant le long d'un rideau d'arbres, nous arrivions bientôt sur un escarpement qui surplombait une ravine toute couverte de broussailles épaisses. Méric les écarta devant nous pour nous conduire à une grotte absolument cachée dans les taillis. Elle ne s'ouvrait que par un petit trou fort difficile à découvrir, et il fallut nous mettre à plat ventre pour y pénétrer. La neige, qui tombait toujours, eut vite recouvert nos traces, et ce fut notre salut. Car il s'était à peine écoulé un quart d'heure que nous entendions passer et repasser des patrouilles sur nos têtes par le chemin longeant l'escarpement. « Ils sont rentrés dans le bois, » disait un soldat. « Non, » assurait un autre, « je les ai vus qui faisaient le tour du château. »« Sapristi !» grommelait un troisième. « C'est idiot de les manquer. Courville a fort bien reconnu le chef Pérobe, dont la tête est mise à prix. Nous allons perdre 300 pistoles. Et que le tonnerre de Dieu emporte au diable cette sacrée neige !» Mais un quatrième soldat cria « Caboche d'âne, faut-il qu'on vous le dise et répète 100 fois, le chef Pérobe a été tué avec cette coureuse qui prophétise et ne le quitte point. On a même coupé leur tête pour les montrer à nos puissances. » Puis il se fit un grand silence. Une faible lueur pénétrait dans la caverne. Nous étions mouillés et transis de froid. Et je devais avoir perdu beaucoup de sang, car je me sentais un peu défaillir. Méric avait heureusement sa gourde à moitié pleine d'eau-de-vie. Nous en bûmes un peu, qui nous ranima, puis il m'en tamponnait la joue sur laquelle Florette liait son mouchoir de batiste. Il y avait dans le fond de la grotte un amas de feuilles sèches que nous disposâmes pour pouvoir nous y allonger. J'enveloppai Florette dans le manteau d'un des grenadiers tués, l'autre manteau nous servant de couverture. Alors elle pria, remerciant Dieu qui nous avait jusque-là voulu sauver, le suppliant de nous rendre l'espérance et la victoire. Maintenant, ayant rechargé nos armes à tout hasard, nous nous apercevions que nous mourions de faim. Son quartier tirait de son sac un vieux pain d'une livre, dur comme de la pierre, et qui nous parut exquis. C'est tout ce que j'ai, dit-il, excusez du peu. Mais quand le diable y serait, nous n'allons tout de même pas nous en contenter. Avant qu'il fasse noir comme dans un four, je saurais bien me glisser jusqu'à la Frécinette, à moins d'une demi-lieue d'ici. Là demeure un de nos frères, Josso le Bègue, qui certainement ne refusera pas de me faire souper et me donnera des vivres que je rapporterai. Au petit jour seulement, car la nuit, par ce temps de chien, je ne retrouverai plus le chemin. Vous n'avez donc à dormir bien tranquille, en m'attendant. Je vous laisse ma gourde. » Et sans quartier, prenant à travers les broussailles par le plus long, pour ne point déceler ses pas sur le chemin, s'enfuit dans la pénombre. Nous restions seuls au monde, perdus au sein de la terre, comme sous la pierre d'un tombeau, dans une obscurité profonde. « Ma petite fille, dis-je à Florette, ajuste bien sur toi le manteau et te serre contre moi. Nous nous réchaufferons l'un l'autre. Tâche de dormir, d'oublier la malheur. Mon frère Jean, quelle terrible catastrophe! Tout est perdu, et pourrons-nous reprendre les armes? Hélas, c'est moi qui t'ai entraînée, pauvrette, dans cet affreux guet-apens. Et non, tu sais que le devoir nous appela tous deux, mais toi, Jean, te sentir blessé, là, près de moi, sans pouvoir seulement te voir, te soigner. Je ne souffre plus, Florette, c'est fini, la blessure est fermée. Elle était blottie dans mes bras, et sa douce chaleur me pénétrait. Que tu es légère sur mon cœur, Florette. Te rappelles-tu au Mas Roger quand nous étions si petits et que tu venais, le matin, me trouver dans mon lit? Je te serrais dans mes bras comme ce soir, et voici que tu es toujours, ma petite sœur. Nous nous battions quelquefois aussi, tu m'égratignais. Je m'en souviens, mon frère. Je te vois encore, Florette, quand tu t'étais. C'est mon plus lointain souvenir. Avant cette première vision, il n'y a rien. Elle a toujours été gravée en moi. Toujours j'ai vu ta petite bouche rouge et goulue sur la blancheur du sein de ma mère. Le lait de ta mère fut un noble lait, Jean. Il nous a fait une âme vaillante à tous deux. Nous allons au combat sans trembler et marcherions sans crainte au supplice. Hélas, combattrons-nous encore? Pourrons-nous délivrer notre terre de ces tyrans, de ces bourreaux? Et voici que mon pauvre oncle a péri dans le combat, avant même de nous avoir unis. Dieu saura bien, Florette, nous unir. Oui. C'est en lui que nous avons recours, en lui seul, mon frère chéri. » Elle chanta alors à mi-voix, « Qui en la garde du haut Dieu, pour jamais se retire, à nombre bon et en fort lieu, retirer se peut dire. » Un immense apaisement me venait de sa voix fraîche. Cet antique psaume de Clément Marot m'enchantait sur ses lèvres, m'envoûtait, m'étreignait tout entier par sa mélodie naïve et profonde. Mes bons aïeux l'avaient chanté de père en fils, sur les hauts lieux de la patrie. Ces paroles vieillies, démodées aujourd'hui, me reliaient directement à eux. Il me semblait que je les entendais parler. En ces heures tragiques, au milieu des dangers mortels qui nous environnaient, le psaume battait de l'aile sur nos têtes, assurait nos courages, ranimait nos espoirs, nous versait harmonieusement la saveur et l'orgueil de notre terre, de notre race. Et je chantais doucement avec Florette, car du subtil lac des chasseurs et de toute l'outrance des pestiférés oppresseurs te donnera délivrance, de ses plumes te couvrira. Sûr sera sous son aile, sa défense te servira de targe et de rondelle. Un silence profond régna, interrompu seulement par les à-coups de la rafale qui rugissait au trou de la caverne. Je n'entendais plus la voix de Florette, et comme je me tournais vers elle, je connus à son doux souffle régulier que ma chère fiancée venait de s'endormir profondément dans mes bras comme un petit enfant.